C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Dans l'histoire, l'histoire avec un grand I, on revient régulièrement sur des événements, des guerres, des aventures, mais peut-être pas assez sur l'art avec un grand A. Du moins, c'est ce que certains et certaines parmi vous, fidèles auditeurs et auditrices, nous ont fait remonter. Qu'à cela ne tienne, étudions aujourd'hui la vie d'une peintre, Élisabeth Vigée Lebrun, née en 1755 et morte en 1842. Elle a révolutionné l'exercice du portrait en représentant les têtes les plus distinguées de l'époque, Caroline Murat, Marie-Antoinette ou encore Louis XVI. Son secret, ajouter un sourire. Pour revenir avec moi sur l'histoire d'Élisabeth Vigée Lebrun, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Blin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors messieurs, Élisabeth Vigée Lebrun, née en 1755, est-ce qu'on peut raconter le début de sa vie et qu'est-ce qui l'amène à la peinture et à l'art ?
Elle grandit dans une famille d'artistes, dans une famille de peintres. Donc son père était peintre et sa mère était
marionnettiste.
Était marionnettiste à la cour. Donc elle grandit dans cette famille d'artistes. Donc finalement, ce n'est pas une surprise qu'elle se prenne d'affection justement pour l'univers de la peinture.
Les chats ne font pas des chiens.
Exactement.
Exactement. Donc elle s'y met très tôt, je suppose, à la peinture. Quand on a un père peintre, je suppose qu'on met les doigts dans la peinture et dans les pinceaux très rapidement. Quelles sont ses premières œuvres ?
Ses premières œuvres, ce sont des grosses bêtises d'enfant. Vous l'avez dit, ses parents sont artistes et sont peintres, notamment à la cour, vous l'avez dit Thierry. Donc elle n'est pas loin du château et de temps en temps, ils peuvent rentrer dans le château de Louis XVI. Et sa première grosse bêtise va être de vous savez, ce coup classique hein, de mettre ses mains dans la peinture et après de mettre ses mains un peu partout dans une pièce. La chambre du roi va être repeinte avec les petites mains d'Élisabeth quand elle aura 5 ans.
Donc une nouvelle déco, on va dire, très art contemporain, de mettre des mains un petit peu partout. Comment réagit le roi face à ces multiples mains peintes sur ses murs ?
Il est amusé, il ne lui en tient pas rigueur, il a d'autres chambres, il va faire nettoyer sa chambre. Et... Non, ce sont ses parents qui seront plus embarrassés parce que c'est quand même le roi, donc on ne fait pas n'importe quoi avec la chambre du roi.
Il sera laissé quand même parce que vu qu'il était amusé, Louis XVI, il en laissera une petite main qui sera laissée dans un coin. D'ailleurs, si vous visitez le château de Versailles, elle est toujours là, cette petite main, elle n'est pas vraiment montrée au public. Mais moi j'ai eu la chance de faire une visite guidée avec un guide tout à fait agréable.
Est-ce que vous avez eu Alexander ?
Exactement, Alexander.
Ah, il est super, Alexander.
Génial, je l'adore. Et il vous montre justement cette petite main d'Élisabeth Vigée Lebrun.
Moi, il m'avait fait les voix, il avait fait les persos. Il avait fait Élisabeth, il avait fait ses parents qui la grondent.
Ah, oui.
J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné ce gars-là.
Ouais.
Vraiment.
Souriant.
Non, si vous allez au château de Versailles, demandez à Alexander.
Ah oui. Ah, ouais. Non, mais l'expérience est vraiment différente.
J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs, peut-être.
Bonjour Alexander.
Bonjour Alexander.
Parce que moi, une fois, j'ai eu Pierrick.
Oh là, non, oui. On va pas parler de Pierrick ici.
Et
non,
vraiment,
non.
Vraiment, pour moi,
non,
si vous avez.
Bah,
excusez-moi, mais je le dis pour les auditeurs parce qu'il faut que les gens savent. Oui, si vraiment vous demandez le nom de votre guide quand vous arrivez au château de Versailles, si vous avez Pierrick, vraiment demandez l'annulation, je pense direct, ça vaut vraiment pas le prix de la visite.
Non, et puis mettez-lui un coup de pied.
Non, mais arrêtez, c'est bon. Pas faire du Pierrick bashing comme ça à la radio.
Non mais
bon. Non mais voilà, c'est donc une bêtise d'enfant. Elle fera d'autres bêtises d'enfant, Élisabeth Vigée Lebrun. Moi, je pense à une de ses œuvres qui est aujourd'hui très connue, mais qui a pas fait rire beaucoup de monde à l'époque, qui s'appelle La soupe à la grimace, qui est une peinture peinte avec de la soupe qu'elle aura volée dans les cuisines. Et donc, forcément, elle se sera fait gronder et elle avait peint des grimaces sur une toile avec de la soupe qu'elle a volée. D'ailleurs, d'où l'expression aujourd'hui, faire la soupe à la grimace, parce qu'elle a été punie longtemps et elle a fait la soupe à la grimace après avoir fait la soupe à la grimace.
Donc on a là un début de carrière, on va dire, artistique qui démarre très fort. C'est pas donné à tout le monde comme ça de pouvoir repeindre une des chambres du roi ou de parcourir le château de Versailles enfant, comme si c'était un centre aéré. Quelle est la prochaine marche pour elle dans sa carrière de peintre.
C'est la mort de son père.
La mort de son père.
Oui, son père va décéder d'une tuberculose. Mm-hmm. Et elle va du coup être recueillie finalement par Louis XVI lui-même pour rester vivre au château de Versailles. Car sa mère est marionnettiste, donc elle est tout le temps sur les routes de France à faire des spectacles de marionnettes. Et donc Louis XVI va vraiment la prendre sous son aile pour s'occuper d'elle au château.
Ils étaient très amis, Louis XVI et son père, Franck Vigier-Lebrun. Ils étaient très très amis. C'est pour ça qu'ils recueillent la petite Élisabeth.
Et d'ailleurs, la petite Élisabeth peindra le jour de la mort de son père. Hein, et c'est là où elle apportera la première fois sa touche artistique. C'est que pour combattre la tristesse de ce moment, elle peindra un grand sourire à son père décédé. Sur le tableau et c'est là qu'elle a, que ça crée une différence chez elle dans ses portraits.
Et c'est un tableau qui va émeuvoir finalement toute la cour. Donc à l'époque, Élisabeth est quand même une grande fille, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans à peu près, ou 13 ans.
13 ans.
13 ans, voilà. Et donc voilà, elle a quand même un certain déjà talent pour la peinture, et ce tableau magnifique d'ailleurs qui est exposé au Louvre et que vous pourrez voir. C'est beau, c'est émouvant de voir cet homme qui en effet est décédé, mais avec le sourire. Ça va émouvoir toute la cour à l'époque de Louis XVI.
C'est beau et c'est nouveau, parce qu'à cette époque, aucun tableau n'est peint, aucun portrait de que ce soit d'un citoyen lambda ou d'un roi, n'est peint avec autre chose qu'une expression de visage neutre.
Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi les gens ne sourient pas
Non, c'est pas ça. C'est que c'est pour des raisons d'identité, d'identification. Oui. C'est que on n'a pas la photo à l'époque. Et quand vous faites une carte d'identité aujourd'hui, on vous demande de ne pas sourire. À l'époque, quand vous avez une peinture de vous, c'est une carte d'identité. C'est un moyen de vous identifier, et donc il ne faut pas sourire sur les identifications.
Tout comme il ne fallait pas porter de chapeau.
Sur les
tableaux.
Ah oui, sur les tableaux,
surtout pas.
Et de ne pas mettre les cheveux devant le visage.
Pas de lunettes, pas d'accessoires. Pas d'animaux non plus. Interdiction de se faire peindre avec un animal.
Pour être identifiable. Mais bon, là, dans ce cas précis, son père était mort et donc n'avait plus besoin d'être identifié. Et donc, on pouvait la peindre avec un sourire. Elle a transgressé cette règle.
Donc, ce sera le premier sourire de la peinture française. Oui. Représenté là sur le père d'Élisabeth Vigier Lebrun, elle va en faire sa marque de fabrique de ses sourires.
Finalement oui, parce que assez rapidement c'est ça qui est identifié comme sa touche personnelle, et elle va continuer à peindre au sein de la cour, et finalement les gens ne lui demandent que ça maintenant sur les portraits, etc. On ne lui demande que ça, donc en effet elle va le faire, et elle le fait très bien.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une peintre, du coup, en 1700 et quelques, de peindre des sourires sans que personne ne l'ait fait avant ? Comment est-ce qu'on apprend à peindre des sourires ? Est-ce que c'est un don comme ça, inné ?
C'est pas facile. Elle a fait des erreurs au début. Elle a peint des sourires sur des tableaux inadéquats. Quand elle peint des natures mortes, elle fait sourire toutes les pommes, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc au début, elle est un peu perdue sur l'utilisation du sourire et sur...
On lui dit que c'est bien, mais elle voit pas trop pourquoi...
Le ciel sourit, mais ouais, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça va la mettre dans des situations délicates, puisqu'elle va... En fait, elle se cherche, en fait, toujours. Elle est...
Quelque part tous les artistes.
Oui, voilà, mais là, c'est comme une adolescente qui a perdu son papa, qui est en train de se faire élever par le roi de France et qui lui demande justement des peintures, etc. On se souvient que malgré le fait que Louis XVI l'aimait beaucoup, il va la mettre au cachot pendant quelques semaines, parce que en voulant peindre un marquis dont j'ai oublié le nom.
Le marquis de Sade,
il lui fera un sourire. Mais non pas un léger sourire comme on peut voir sur les peintures de Marie-Antoinette, Louis XVI et de son papa, mais un sourire immense, oui. Bouche ouverte, oui. Pleine dents dehors. C'était le marquis de Sade était outré à l'époque, et il a demandé justement l'enfermement d'Elisabeth.
Puis le marquis de Sade, ça signifie quand même tristesse en anglais.
Oui.
et là, il n'était pas sade du tout sur la peinture. Hein.
C'était l'inverse. Et donc, ouais, très mécontent. Et il y a eu plusieurs scènes comme ça, on lui demandait de peindre un tableau, et finalement, elle faisait trop, ou pas assez, etc. Et donc, ça va être dur, ça va être un long parcours pour Elisabeth Vigée-Lebrun.
Je me demande, peut-être que Pierrick ne sourit pas à chaque fois pour les visites parce qu'il veut qu'on l'identifie, il a peur qu'on ne l'identifie pas, qu'on ne le reconnaisse pas peut-être, ou quelque chose comme ça.
Non, je pense qu'il est juste désagréable. Voilà.
Donc, pense, tu penses que...
En tout cas, il n'y avait aucune raison, aucune bonne raison pour parler comme ça de ma chemise. D'accord ?
Elle était très bien, oui, bah... ta chemise.
Moi, j'aurais pris une autre. D'accord. J'avais voté pour une autre chemise.
Oui, bah, visiblement, Pierrick aussi. Donc, ça vous fait un point commun.
Bon, alors, on ne va pas revenir sur le cas Pierrick. Est-ce qu'on peut continuer sur l'histoire d'Elisabeth Vigée-Lebrun ? Arrive l'âge de la majorité. Du coup, elle peut prendre ses ailes face à... Enfin, face, disons, de... comment est-ce qu'on dit de Louis XVI qui l'a pris en tant qu'enfant adopté. Qu'est-ce que va devenir sa vie à ce moment-là ?
Elle va rester à la cour, elle va continuer de peindre. C'était son choix de vie, c'était ce qu'elle voulait, jusqu'au jour où sa mère va rentrer, finalement.
Donc, sa mère rentre de sa tournée, en fait, d'artiste.
Oui, une tournée qui aura duré 8 ans, quand même.
D'une sacrée tournée. D'une de ses nombreuses tournées, en fait. Oui, voilà, une grosse tournée à travers tous les villes et villages de France. Et donc, sa mère va rentrer, et puis elle va découvrir, finalement, le succès de sa fille auprès de la cour et auprès du grand public aussi, finalement.
Et si je comprends bien, là, ça fait 8 ans que les deux ne se sont pas vus.
Non. Donc, elle découvre également le décès de son mari.
Oui, elle l'ignorait. Prise par l'engouement par les marionnettes, on a tenté de lui faire pas venir des missives.
Non, mais
vous connaissez la vie de marionnettiste. Vous le connaissez bien, vous, Guillaume. Et non, on n'est jamais dans la même ville deux jours de suite.
Et puis Simone Vigée-Lebrun, figure du marionnettisme moderne, je veux dire, elle s'est fait un nom parmi les marionnettistes, tout le monde la connaît, et on ne peut pas se faire un nom tel sans
mettre de côté la famille, par exemple.
Exactement. Et c'est là un peu qu'il va y avoir le drame familial finalement d'Elisabeth Vigée-Lebrun, puisque Simone, donc la maman, va l'attaquer pour plagiat devant la justice, car c'est en voyant les marionnettes de Simone que l'on se rend compte de d'où vient finalement ce sourire. C'est finalement, il était peint sur les marionnettes de Simone Vigée-Lebrun, c'est là qu'elle a eu son inspiration finalement.
Aïe aïe aïe. Et oui, dès que Simone Vigée-Lebrun va arriver à la cour et voir les tableaux d'Elisabeth, elle ne dira même pas bonjour à sa fille, elle la giflera. À travers une marionnette, Bibo, la marionnette préférée de Simone, qui giflera Elisabeth. Et oui, parce qu'en fait, finalement, c'était ce qui faisait la réussite de Simone Vigée-Lebrun, c'était les sourires peints sur ses marionnettes, et qui a été certainement source d'inspiration pour Elisabeth.
Et c'est frustrant pour Simone, parce que Simone n'a jamais eu la reconnaissance espérée, finalement. Enfin, elle est restée marionnettiste toute sa vie, elle n'a jamais été reconnue par le grand public, elle fait le plaisir des enfants.
On connaît Simone.
Mais de son vivant, voilà, elle fait sourire les enfants, elle fait rire les petits et grands, mais voilà, son nom ne fait pas écho dans la société, alors que lorsqu'elle arrive à Versailles... on n'entend que parler d'Elisabeth Vigée-Lebrun.
D'autant plus que Simone a toujours visé une place en résidence à la cour.
Tout à fait.
Mais les marionnettistes étaient mal vus pour des raisons évidentes.
Mais oui, bien sûr.
Alors justement, pour ces raisons évidentes, on en parle juste après la pause musicale.
L'histoire, avec un grand I, sur Prune.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I, après Barry Wanilo et Can't Smile Without You. On s'est quitté à ce moment fatidique où, du coup, Simone rentre de 8 ans de tournée et, avant même d'aller voir sa fille, l'attaque en justice pour contrefaçon. Qu'est-ce que ça donne ?
Alors, c'est un procès donc, qui va beaucoup faire parler de lui à Paris. Il va durer une semaine.
Une semaine de procès.
Le juge, à l'époque, d'ailleurs, était Robespierre, à l'époque, qui ensuite voilà, participera activement à la Révolution française.
Il était multicasquette, Robespierre.
Oui, voilà.
Il faisait plein de choses.
C'était le moment où il était juge, justement, à la cour.
Oui,
avant son restaurant.
Oui.
Ah oui, juste avant son restaurant, c'est vrai.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, donc un procès qui va durer une semaine. À la barre seront appelés comme témoins Louis XVI, Marie-Antoinette, toute la cour qui viendront témoigner en faveur d'Elisabeth. Voilà, comme quoi elle a un don inné. Et par contre, voilà, c'est indéniable, les sourires des marionnettes ressemblent comme deux gouttes d'eau aux sourires qui sont peints sur les tableaux d'Elisabeth.
Alors, il y a eu des experts qui ont essayé de dater est-ce que les marionnettes avec un sourire de Simone sont antérieures aux premières peintures avec un sourire d'Elisabeth. C'est difficile, c'est très difficile de dater une marionnette. Déjà, un tableau, c'est difficile, alors une marionnette... Ça n'a pas donné grand-chose.
Non, ça n'a pas donné grand-chose. Elisabeth sera chanceuse dans cette histoire, puisque Louis XVI fera modifier la loi pour empêcher les marionnettistes de remporter des procès à cette époque-là.
Et c'était lié à tout le passé, finalement, qu'avaient les marionnettistes. Donc, c'est une loi qui a été facile à faire passer, parce que c'est une période où tout le monde en avait un peu marre des marionnettistes, déjà.
Oui,
donc,
et puis, ils abusaient de... c'était le grand essor de la ventriloquie à cette époque-là.
Oui.
Donc il faisait témoigner des marionnettes ventriloques, comme si on ne remarquait Simone pas que c'était pas
Simone
eux qui parlaient.
Simone a fait témoigner pas moins de 40 marionnettes lors de son procès.
Voilà. Son principal argument était « Regardez, j'ai la force du nombre. J'ai 40 personnes qui corroborent mes faits. »
Bon. Mais ça n'a pas marché.
Le vrai problème, voilà, donc en effet, donc Elisabeth va s'en sortir, mais quand même l'impact émotionnel, comme ça, c'est vraiment déchirant ce qui se passe avec sa maman Simone. Finalement, Elisabeth sera condamnée à payer une certaine somme tout de même à Simone, somme qui sera versée par la couronne directement, voilà, une modique somme, et Simone s'en ira avec cette somme d'argent, continuer sa vie de...
Elle fondera l'école de marionnettes de Lyon.
Oui. Vous savez que j'ai croisé un pro-Simone, moi,
Ah ouais.
Bah, devinez.
Non.
Un pro-Simone.
Non.
Quelqu'un qui pense que Simone aurait dû gagner le procès.
Alors attends, ne me dites pas que Pierrick est marionnettiste.
Pierrick. Oh,
il est marionnettiste.
Il est marionnettiste.
Oh là là, mais quel enfer.
Non, je vous dis, fuyez si vous avez Pierrick en guide,
surtout si, parce que quand on retrace la vie d'Elisabeth, si c'est quelqu'un qui vous la raconte qui est marionnettiste, ouais. Alors là
mais ça n'a plus aucun sens, enfin, c'est un prisme de l'histoire qui est...
Je trouve ça fou qu'il l'ait embauché avec ça dans son CV.
Bon, bref.
Terrible.
Donc par la suite, Elisabeth sera libre de continuer à peindre des sourires. Et là, c'est l'apogée de sa carrière, en fait. Elle maîtrise ça à la perfection. Tout le monde veut se faire peindre par Simone. Par Elisabeth, pardon. Tout le monde veut son tableau, tout le monde veut son sourire. Et finalement, en mettant du sourire sur l'étoile, elle met du sourire dans le cœur des gens.
Alors elle met du sourire dans le cœur des gens, mais pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, la règle avant l'arrivée d'Elisabeth, c'était justement des visages neutres, etc. Comment est-ce qu'on a fait évoluer la société pour accepter des sourires comme ça? Est-ce que c'est juste par le talent ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle législation? Je ne sais pas.
Ah non, c'est juste que ça s'est fait comme ça. On s'est rendu compte qu'au final, on reconnaissait les gens quand même.
Oui.
Et en fait, c'est arrivé assez naturellement. Et surtout quand la haute société a commencé à se faire peindre avec des sourires. Mais ce n'est pas venu naturellement tout de suite. C'est-à-dire que on sait d'ailleurs que Louis XVI a eu beaucoup de mal à sourire lorsqu'il prenait la pose pour le fameux tableau qu'on connaît bien d'Elisabeth Vigée-Lebrun, où il est représenté. Il n'y arrivera quasiment pas. Ce qui fait qu'Elisabeth Vigée-Lebrun a dû inventer finalement ce sourire.
Inventer un sourire sur Louis XVI.
Voilà, oui. Sur Louis XVI. Et Louis XVI a été émerveillé par le résultat finalement. Enfin, ce tableau qui est magnifique.
Tout le monde voulait son portrait avec un sourire à partir de cette époque.
Jusqu'à aller à se forcer à sourire. Alors qu'on ne savait peut-être pas sourire. Par exemple, on a un exemple ici. Quel est l'impact sur le reste du monde de l'art, de l'arrivée de ces sourires partout sur tous les tableaux?
Tout le monde essayait. Tout le monde voulait, peindre, faire des portraits avec des sourires. Léonard de Vinci en est la preuve, la Mona Lisa.
Oui, il a essayé.
Il a essayé.
Mais aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment si c'est un sourire, si c'est une moue, si voilà. Tout le monde se pose la question, mais finalement, voilà, n'est pas Elisabeth Vigée-Lebrun qui veut.
Et ça a amené d'autres artistes qui se sont dit, si finalement on peut peindre des sourires sur les tableaux, peut-être qu'on peut peindre les gens avec des chapeaux. Peut-être qu'on peut peindre les gens avec des animaux. Et donc, je pense à Damien Chollin qui s'est mis à peindre les gens avec des chapeaux en tout genre. Et donc, il y avait à cette époque énormément de chapeaux avec des couvre-chefs parce que si on peut les faire sourire, on peut les faire porter des chapeaux. Ils n'ont pas besoin, ils sont reconnaissables quand même.
quelque part, c'est un moment charnière pour l'art où on va mettre de côté plein de règles qui légiféraient, comme aujourd'hui sur la carte d'identité, par exemple, sur les pièces d'identité. Tout ça, on les met de côté et on permet de faire d'autres tableaux.
Pour l'art et comme vous le dites, pour la société. C'est-à-dire que ça amène finalement une ère de légèreté. On se détend, on s'habille comme on veut, on prend des animaux de compagnie, on se met à sourire à ses voisins, aux gens qu'on croise dans la rue, à son boulanger. Voilà, c'est un moment où il fait bon vivre en France.
C'est un peu comme un printemps en France. Quoi.
Exactement.
Un long printemps, voilà. Où les gens découvrent le concept du sourire et de sourire à autrui.
Tout à fait. Et beaucoup disent, certains disent que justement c'est ce qui est aux prémices finalement de la Révolution française. C'est ce qui fait que justement le peuple commence à bien vivre, commence à se sentir à l'aise. Et finalement, il sent aussi qu'il y a un relâchement depuis le sommet de l'État. Et c'est à ce moment-là finalement que voilà, on est à la prémisse de la Révolution française, les gens qui veulent continuer à bien vivre finalement, sans se faire réprimer.
Alors, quelle est la place d'Élisabeth Vigée-Lebrun là-dedans ? Est-ce qu'elle va participer activement à ce nouveau mouvement ou est-ce qu'elle se cantonne à être peintre et rester peindre des sourires ? Ou est-ce qu'il y a un contrôle plus fort, on va dire, du changement sociétal qui a lieu alors ?
Elle n'en a rien à faire de cette révolution, de cette... Ce n'est pas son problème.
Ce n'est pas son problème jusqu'au jour où ça arrive aux portes du château, justement. Mais comme vous le dites, elle n'y a pas participé, mais le jour où ça arrive aux portes du château, où le peuple gronde, où l'on veut la tête du roi, Élisabeth Vigée-Lebrun est meurtrie, car c'est presque son papa, Louis XVI, finalement. Et l'on dit dans le journal d'Élisabeth Vigée-Lebrun qui a été récupéré, que Louis XVI, avant de s'enfuir, se serait retourné vers Élisabeth et lui aurait souri.
Il aurait réussi à sourire.
Réussi à sourire après tant d'années.
En faisant face à la mort, finalement. Finalement, voilà.
Est-ce qu'on n'a pas là une belle leçon de vie ?
Moi, ça m'émeut beaucoup. Parce que voilà, on dépeint souvent Louis XVI voilà, comme un roi de qui on a simplement tranché la tête et comme un monarque, un despote. Voilà, c'est avant tout un humain qui, face à la mort, voilà, a appris à.
Ouais. Ouais, ça va aller, Thierry.
Ça va aller. Pas les émotions, non, Thierry. Non, c'est...
non, et on peut parler de.
Thierry adore Louis XVI. Ouais. C'est son...
Mais pensez à ce beau tableau, Thierry, d'Élisabeth Vigée-Lebrun.
C'est beau.
Non, mais je pense à ce tableau d'Élisabeth Vigée-Lebrun, La tête tranchée de papa, où elle le dépeint. Elle dépeint la tête tranchée de Louis XVI avec un grand sourire. Et... Ouais. Mais même dans la mort, il était finalement.
Ça remet du baume au cœur, ça.
Non, mais c'était. Voilà, elle a fait beaucoup de choses, cette femme. Et je la remercie beaucoup.
Elle a fait beaucoup de choses. On arrive quasiment à la fin de sa carrière, là, d'un point de vue...
Les mouchoirs sont dans mon sac, Thierry.
Sac. Oui, Thierry est vraiment très, très, très ému face à ce pan de l'histoire avec un grand I. Comment, justement, va se terminer, on va dire...
Essayez de vous moucher plus loin, oui.
Merci Thierry. Comment va se terminer l'histoire d'Élisabeth Vigée-Lebrun ? Là, on arrive un peu dans un troisième temps pour elle, où elle perd cette figure paternelle qui était Louis XVI. Est-ce qu'elle va réussir toujours à peindre des sourires ?
Alors, en perdant cette figure paternelle, elle va essayer de renouer avec sa figure maternelle. Et donc, elle ira voir Simone en prison. Puisque Simone est en prison depuis le procès, on a décidé...
Après un autre procès, parce qu'elle avait ouvert l'école de marionnettes de Lyon.
Oui, oui.
Et il y a eu un procès
Après le procès de Lyon.
Oui, oui.
Oui, bien sûr, pardon. Excusez-moi, j'ai cru qu'on avait parlé de l'école de Lyon.
Attendez, donc là,
très rapidement,
il y a un petit micmac avec l'école de Lyon, c'est ça que
vous êtes
en train de dire.
Oui, donc Simone a monté une école de marionnettistes à Lyon. Elle a arnaqué les gens.
Comme les marionnettistes en général, hein, on est tout dans le contrôle, on est tout dans la manipulation.
Il y a une réputation de, on ne peut pas leur faire confiance et ça ne vient pas de n'importe où.
Voilà. D'ailleurs, moi Alexander, je lui donne toujours un pourboire parce que j'en ai envie, parce que la visite était très bien, et je donne le pouvoir que je veux. Avec Pierrick, c'est toujours oui. Alors les gens en général, ils donnent ça, voilà. Ouais. On a toujours essayé de tirer les ficelles de mon porte-monnaie, là, ça me.
Non. Alors, voilà.
Non mais déjà je suis un peu dans l'émotion là, voilà. Ça
oui, vous redescendez là.
Donc elle a avec les gens et Élisabeth allait la voir en prison, vous disiez
Oui, Alexandre. Oui, donc Elisabeth va voir Simone à la prison de Lyon et essaye de renouer avec sa mère. Bon, sa mère est complètement aigrie, elle ne veut pas l'écouter. Mais Simone, Elisabeth se met en tête que son dernier portrait, le dernier portrait qu'elle tirera, sera celui de Simone qui sourit. Et donc elle viendra jusqu'à la mort de Simone tous les jours à la prison de Lyon pour essayer de peindre Simone avec un sourire. Ce qu'elle n'y arrivera pas, malheureusement.
Non. Et c'est un échec. Hein. Elle peindra sa mère derrière les barreaux sans sourire. C'était une épreuve trop grande. Et elle l'intitulera La soupe à la grimace numéro 2.
Mmh. Et toute la collection de La soupe à la grimace numéro 2 est disponible également au Louvre. Et c'est tous les tableaux, finalement, de Simone qui fait la gueule et qui sont mis côte à côte, comme ça,
jour après
dans
jour.
Le musée.
Mais,
il y en a combien ?
61.
61.
Elle a mis 2 mois avant de mourir. Mais moi, j'ai Thierry Alexandre, si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on appelle Alexander et qu'on aille au Louvre ce soir, parce que ça m'a un peu donné envie de...
C'est vrai que moi, ça m'a donné envie aussi.
D'aller voir cette collection.
Moi, complètement, je vous suis, écoutez.
Parce que... Non, mais parler de Thierry, ça m'a un peu énervé aussi.
Oui, donc, voilà. Alors, par contre, il faut être sûr que ce soit Alexander. Hein,
parce que... Non, mais je vous propose qu'on appelle directement Alexander, même. Hein.
Vous avez le numéro d'Alexander ?
On est allé boire, on est allé manger un peu après
la chance
du château la dernière fois. Il est super sympa.
J'imagine, j'avais jamais vu en civil, mais d'accord. Non. Ok.
Ouais, il s'habille pas du tout pareil.
Ah ouais.
Parce que d'habitude, il est avec les habits du musée. Et là, quand on a vu, il avait un pull.
J'ai du mal à l'imaginer en dehors du musée, mais c'est comme tout, hein, comme tout métier.
Bah ouais.
Et ben, avec.
Voilà.
Rendez-vous au Louvre ce soir.
Vous voulez venir
Bien sûr, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il travaille le mercredi?
On va lui demander.
Je lui écris et puis
il a peut-être déjà d'autres visites de points. Bref, on lui demande.
Voilà. Et puis sinon, on ira boire un verre.
Appelez-le, voilà, on verra bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités. Rendez-vous au Louvre ce soir. Merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Elisabeth Vigée-Lebrun. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.